Donc, j'ai 17 ans et je vais à l'hôtel depuis 9 mois, bientôt 10. Je suis dans l'attente et je sais pas quand ça va se terminer. Parce qu'on sait pas ce qui est. On sait pas, on peut pas. Parce qu'eux-mêmes, ils sont pas sûrs aussi. Pour eux aussi, c'est pas facile. Je pense que pour eux aussi, c'est pas facile de décider. Parce que déjà, on est des jeunes de l'ASE, qu'on est vraiment mal vu pour tout le monde. Je dis jamais que je vais à l'hôtel. À part mes proches, mes amis, personne ne sait que je vis à l'hôtel. Même dans mon travail, on n'a jamais su que j'étais en foyer ou que j'étais à l'hôtel. Parce que pour moi, c'est trop difficile de pouvoir dire ça aux gens et de savoir que les gens ils me regardent de cette manière-là. Je préfère qu'on me voie d'une autre manière.
À 17 ans, en errance à l'hôtel, aux marges du système de placement des mineurs en danger. Aujourd'hui, à Paris, il serait une cinquantaine de mineurs à vivre à l'hôtel, accompagnés par des éducateurs intérimaires. D'autres vivent tout seuls, comme la jeune fille qui témoigne ici, mais nous ne disposons pas des chiffres les concernant. Les plus jeunes peuvent avoir entre 8 et 11 ans, mais la plupart sont de grands adolescents. De nombreux mineurs étrangers isolés vivent aussi à l'hôtel, mais nous ne traiterons pas ici de leur situation, dont les spécificités nécessiteraient un travail d'enquête à part entière. Si le recours à l'hôtel a toujours existé pour héberger des jeunes sur de très courtes périodes, les professionnels s'accordent pour reconnaître que les pratiques ont changé. L'hôtel est devenu une sorte de placement par défaut, où les jeunes qui n'entrent pas dans les cases des dispositifs classiques peuvent rester de plusieurs semaines à plusieurs années.
Alors, c'est une anomalie, une urgence et une réponse par défaut.
Très coûteux et sans réelle réflexion éducative, ce fonctionnement ne fait que s'étendre depuis le milieu des années 2000 et s'installe dans les pratiques de l'aide sociale à l'enfance, dite ASE, qui dépend du département de Paris. Comment jeunes et professionnels vivent cette situation qui interroge le système de placement dans son ensemble ? Un documentaire de Charlotte Rouault et Benoît Bory.
Donc là, c'est la chambre. La chambre, elle n'est pas très très grande. Il y a un lit de place, un meuble. Un petit meuble pour ranger les livres, les assiettes, les casseroles et tout. Donc là, normalement, c'est une cheminée. Mais moi, je l'ai un peu transformée en petite commode pour mettre tous mes produits d'hygiène. Ma télé, ma radio, donc, c'est un peu rangé comme ça. Voilà. Donc, il y a 4 ans, je me suis retrouvée dans un service d'accueil d'urgence, en fait, parce que j'ai été un mois à la rue. Et je me suis retrouvée dans un service d'accueil d'urgence. Et c'est là où on a demandé à un juge de me placer. On m'a placée à l'ASE. Donc j'étais en foyer d'abord pour les personnes qui sortent, je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est quand on sort de prison et c'est des jeunes mineurs qui sortent de prison, ils vont là-bas. Moi ils m'ont mis là-bas parce qu'il n'y avait aucune place nulle part, donc je suis restée là-bas 2 semaines. Après on m'a mis dans un autre foyer, donc un service d'accueil d'urgence, je suis restée 3 mois dans le 92. On m'a mis dans le 95 en famille d'accueil. On m'a mis dans le 17e dans une famille d'accueil, en appartement surveillé. Dans un autre foyer, dans le 78, un foyer à Sartrouville aussi. On m'a mis presque, enfin, dans plein de foyers différents, donc je m'en rappelle pas trop. Mais je sais que j'ai fait plein de foyers. Et les foyers, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Quand on en fait plein et que c'est toujours la même chose, on en a marre. Or que chez ses parents, on peut sortir, on peut faire ça. Dans un foyer, c'est pas comme ça. C'est tous les jours, il y a une heure pour rentrer, une heure pour sortir. Sinon, t'es déclaré en fugue. Et la police, elle cherche partout. Donc, ouais. Ils nous foutront rappeler la police, la loi, les procureurs, les juges. Mais nous, on pense pas à ça. Nous, on pense à faire notre vie. Moi, j'ai 17 ans, je veux faire ma vie. À 17 ans, je veux pas avoir des problèmes avec la justice juste parce que je veux sortir en soirée. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Et là-bas, juste une petite embrouille, ils appellent la police directement. Donc et après, si on appelle la police, t'as des problèmes avec la justice pour rien du tout. Parce qu'il y a eu une petite embrouille entre deux filles. Donc c'est pas la même vie en fait. C'est pas du tout. En fait, on a l'impression d'être dans un internat H24. Mais vraiment, H24. Les familles d'accueil, c'est une autre ambiance. C'est avoir une deuxième famille. Moi, j'en ai qu'une de famille. Et je vais pas la changer pour aller dans une autre famille. C'est tout simple. Donc. En fait, l'ASE, il cherche juste un moyen de mettre les jeunes dans un endroit bien où ils seront bien. Et nous, où on va, on n'est pas bien, en fait. C'est ça, le problème. N'importe qui, où on va, on n'est pas bien. Et ça, c'est pas à cause de l'ASE, c'est à cause de nous-mêmes. C'est nous qui faisons qu'on n'est pas bien nulle part.
Alors, c'est une urgence parce que, comme je l'ai dit, il se passe
Isabelle Grimaud.
Une crise massive sur le lieu de prise en charge du jeune, qui rend impossible le maintien de celui-ci dans la famille, dans l'établissement, etc.
Directrice adjointe de la Direction de l'Action sociale, éducative et de la santé de Paris, en charge de l'aide sociale à l'enfance.
Si on n'a pas trouvé immédiatement, ou dans un temps très très court, une réponse adaptée pour la continuité dans une prise en charge classique, donc une autre famille, un autre établissement, un service d'accueil d'urgence, enfin bref, autre chose. Le jeune, il est confié à l'aide sociale à l'enfance et il n'est pas question qu'il reparte dans la nature. Donc il faut trouver un lieu où il est protégé. Malheureusement, on se retrouve, s'il n'y a pas d'autre lieu, ce sera éventuellement une chambre d'hôtel avec un accompagnateur à côté, enfin un éducateur à côté.
En fait, au début, je devais être à l'hôtel pour un temps parce que dans les foyers c'était plus possible parce que moi j'avais demandé de partir des foyers parce que c'est vraiment une ambiance collective. Donc ils m'ont dit que je devais être à l'hôtel pour 3 mois normalement pour après pouvoir trouver un appartement. Ça fait 10 mois que j'attends. Donc en fait on n'est jamais sûr de leur parole en fait. Ils peuvent pas avoir une parole. Parce que leurs paroles, elles changent du jour au lendemain. Déjà, le premier jour, on est à l'ASE. On nous dit le jour même où on est accepté à l'hôtel. Donc, on a toutes nos valises avec nous. Et si c'est loin de l'ASE, on se débrouille pour y aller, avec nos valises, avec nos affaires. C'est pas eux qui vont nous ramener un taxi ou qui vont nous payer un taxi. Donc là, le premier jour où je suis arrivée, on m'a donné 80 euros pour la semaine. Et avec ces 80 euros-là, j'ai payé le taxi. Donc j'ai payé le taxi, je suis venue ici. Et vu que c'était pas très, très, très agréable, je suis partie dormir chez ma copine. Comme ça, c'était mieux, quoi. Je voulais pas. À un moment, je voulais plus dormir ici. Surtout quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, je dormais jamais ici. Jamais. Après, fallait que je dorme un peu ici quand même. Donc je dormais, mais j'essaye d'être le moins possible à l'hôtel, quoi. Pour ne pas rester dans l'ambiance hôtel.
Viennent nous rencontrer pour un petit peu comprendre notre relation avec le département de Paris, la mairie de Paris, je pense. Bah, vous avez vu l'accueil?
Ça va tourner.
Attends, ça marche.
On est une agence d'intérim spécialisée dans la délégation de travailleurs sociaux. 250 clients différents en 2011. Voilà, on a facturé 250 clients différents dans le département de Paris. Le département de Paris, c'est parmi nos clients. Certes, c'est un gros client parce qu'on a un appel d'offres sur les accompagnements qui doit représenter, 7-8% du chiffre d'affaires. Et après, l'hôtel, 20% à peu près de chiffre d'affaires. Donc, et les premières délégations, enfin, premières demandes ont apparu 2005-2006 sur des cas très lourds. Ça s'est accentué après 2007, après la loi Sarkozy 2007 sur la protection de l'enfance. Ben, en 2005, on était les seuls à faire de l'intérim social. On a reçu un coup de fil. Est-ce que vous avez des éducateurs spécialisés? Oui, ça coûte combien de temps? Bon, ben, il nous faudrait un pour cette nuit, pour un jeune. Ok, ben, le jeune n'a pas de place pour lui. Est-ce que vous pouvez mettre un éducateur aussi demain au jour? Oui, on n'a toujours pas de place cette nuit. Est-ce que vous pouvez envoyer un éducateur dans une heure? Oui, ah ben voilà. C'est comme ça.
Ça se passe bien ?
Souvent, l'équipe de l'aide sociale à l'enfance se retrouve malheureusement parfois en fin de journée, assez tard, dans la situation de devoir trouver une solution pour une prise en charge à l'hôtel. Donc, ils vont faire une recherche d'hôtel, d'un lieu sur lequel, vers lequel on peut diriger le jeune, et passer une commande auprès de la société d'intérim pour leur demander d'avoir très vite, et on a effectivement des réponses très rapides, une présence éducative auprès du jeune. Puis il y a un suivi qui se fait en lien avec le référent ou le responsable du secteur ou le conseiller socio-éducatif selon le cas de la situation. De toute façon, le référent continue de suivre la situation puisqu'il cherche toujours un autre lieu, un dispositif adapté.
Quand on nous appelle, on ne demande pas 6 mois, non. C'est une histoire de 2 jours. On nous dit à chaque fois ça va durer 2 jours, 3 jours. C'est tout. Et après, ça dure. Parce qu'ils essuient des refus, parce qu'ils ne se trouvent pas, parce que les foyers envoient balader l'ASE et ils ne trouvent pas. On ne nous a jamais appelé pour dire « Ah, oh, ce jeune-là, vous allez l'avoir 6 mois. » Jamais. On nous appelle pour dire maximum une semaine. Vous savez ce qu'on nous dit à chaque fois.
Et puis d'ailleurs, en fait, bien souvent, en fait, on a nos plannings un peu...
Une éducatrice spécialisée intérimaire.
Bah, enfin, le jeune aussi, du coup, a son planning hôtel un peu à la dernière minute, parce que souvent, on sait pas. Donc, il vient une semaine. Au bout d'une semaine, bah, s'il y a rien qui est trouvé, eh ben, on reste encore une semaine. Mais du coup, il sait pas, en fait. Donc, c'est toujours... voilà, on remet encore une semaine. Et puis voilà, donc c'est... On sait pas trop, quand même. Lui, en fait, finalement, quand il se pose, il sait pas pour combien de temps il va se poser là. On ne sait jamais, en fait. Comme nous, on ne sait jamais combien de temps on va bosser. En même temps, tant mieux, en espérant qu'il parte très vite de l'hôtel. Mais même pour lui, je pense que psychiquement, c'est pas évident de ne pas savoir pour combien de temps t'es là.
Alors tous les matins on fait la passation dehors dans le froid.
Ça réveille.
Oh. Je me reprends. Donc comptait sortir à une soirée. Donc bien évidemment, je lui ai rappelé qu'elle n'était pas autorisée à sortir, qu'elle serait déclarée en fugue. Je lui ai également donc formellement interdit de faire monter son amie. Donc au début, voilà, elle a un petit peu rechigné, elle a vu que c'était vraiment pas négociable. Donc elle est montée, finalement elle a pris un sac de vêtements et elle est ressortie avec son amie. Et puis voilà, peu de temps après, je l'ai déclarée en fugue tout de suite après. Durant la nuit, j'ai pas eu de nouvelles d'elle, pas d'appel, pas de message. Et elle est rentrée à 2h du matin.
Est-ce que tu as vu ce qu'on a mis sur le cahier par rapport aux fugues, justement, le message que nous a fait passer la brigade des mineurs?
Sur la déclaration, systématiquement la déclarer, la relever en fugue. Donc oui, donc j'ai bien vu, donc je l'ai bien déclarée. Voilà, il faudra seulement la lever. Mais
c'est un peu différent si c'est des enfants ou des adolescents, s'ils sont scolarisés ou pas. Mais nous, on arrive à 8h. On a une transmission jusqu'à 8h30 avec le collègue café la nuit. En général, le jeune, il n'est pas réveillé, il peut se réveiller assez tard. Donc on déjeune ensemble le midi. Si on a des rendez-vous, bon bah là on y va, on le réveille. Mais sinon c'est vrai qu'on les laisse assez aussi dormir. L'après-midi on essaye de proposer des choses, sachant qu'il y a aussi des jeunes qui ont des autorisations de sortie. Ou par exemple il peut être autorisé à sortir de 14h à 18h. Auquel cas, voilà, t'es assez seul pendant ton temps de travail sur des prises en charge d'hôtel. Le soir, on dîne avec les jeunes. Et pareil, autour de 23h en général, ils vont se coucher. Et du coup, voilà, on dort aussi.
Mes journées, moi, c'est je me lève à 16h. Vu que je travaille le soir, je commence à minuit. Je termine à 8h, 9h du matin. Donc je me réveille. Déjà, je mange pas. Il y a un truc, je mange pas. Je me douche, je me prépare et je vais au travail. Je rentre, il est 9h du matin, 10h, je dors jusqu'à 16-17h. Toujours comme ça. Ça m'a apporté la liberté, certes. Mais c'est trop. C'est trop, en fait. Parce que, voilà, c'est pas ce genre de liberté que je voulais, moi. C'est trop, c'est... Là, je suis vraiment toute seule. Il n'y a personne pour m'aider. On n'a rien. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a rien. On n'a pas de limite. On est sans rien. Donc ouais, s'ils auraient posé un cadre aussi, ça serait un hôtel où il y aurait un cadre aussi éducatif, ça serait bien, ouais. Ça aurait été une autre ambiance.
J'ai l'impression que dans ces prises en charge, c'est...
Une éducatrice spécialisée intérimaire.
Le travail éducatif, il vient en dernier plan, quoi. J'ai l'impression que c'est plus du rafistolage du quotidien, des premiers besoins, quoi. Hein, se loger, se nourrir pour le jeune, etc. Et après, le projet et ce qu'on peut faire, ça vient après et presque, c'est pas grave, quoi. Presque, c'est pas grave, parce que quand t'essayes aussi, des fois, d'échanger avec eux sur... qu'est-ce qu'on met en... enfin qu'est-ce que on échange sur une situation, enfin je veux dire c'est presque pas important quoi. C'est plus oui mais le 9 ou telle date part en hôtel, elle part en foyer, donc il faut le budget jusqu'au 9, enfin on est plus dans un rapport là que le sens. Alors oui, le quotidien c'est vachement important même en structure, je vais pas dire que. Mais j'ai l'impression qu'on en oublie presque l'essence même du travail, quoi.
Et donc là, tu es dans un bar, tu bois une tisane, tu attends des nouvelles de la jeune que tu suis. Qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là?
Je me sens... profondément inutile, mais vraiment, enfin, j'ai l'impression de servir à rien. Je me sens un peu lasse aussi de ces histoires où elle m'embarque dans ces trucs. Ouais, je suis lasse de l'attendre et je sais pas trop à quoi je sers dans ce truc, dans ce micmac. On peut aller voir l'hôtel si tu veux, et puis juste passer devant, si on voit des jeunes. Je sais pas, il y a peu de chance à minuit, mais...
C'est l'hôtel, là, qui est en bloc.
Ouh, j'ai froid. Il y a un espèce de videur. Enfin, de videur, je dis videur, mais plutôt de veilleur de nuit. C'est marrant, j'ai fait un lapsus. Et il picole le soir. Et du coup, dès qu'il y a des jeunes qui rentrent après 1h du mat, ils pètent un câble après les jeunes, ils les insultent et tout. C'est ambiance à l'intérieur de l'hôtel. Oui, c'est particulier comme... Mais au final, c'est une structure sociale, hein, cet hôtel. Enfin, il n'y a que des jeunes de l'ASE.
Alors on est dans ma chambre d'hôtel, c'est une chambre avec de la moquette et des traces bizarres et plein de trucs, voilà, il paraît-il qu'il y a des souris, j'en ai pas encore vu. Il y a un splendide papier peint rose et humide et
et avec des tags, des écritures et un peu moisies. Il y a un rideau qui est en dentelle jaunie, un peu dégueulasse. Ça donne sur la cour. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Une télé, un frigo, une douche froide et... voilà. Et moi ?
Je regarde juste si... Il faudrait que ça corresponde à... Merde. 185. Tac, tac. Alors en fait, je fais le budget puisque toutes les semaines, on récupère une allocation qui est d'un montant de 150, enfin un peu plus de 150 euros. Et c'est pour manger. Et sauf qu'en ce moment, on arrive... Enfin,
ça va pas.
À la fin de chaque semaine.
Je l'ai repris plus tard parce que je...
Il est en moins.
Là, il n'y a pas du tout 185.
Et alors là, je suis en train de faire des comptes pour récupérer l'argent que j'ai avancé de ma poche.
Ou alors je mets ça.
J'étais en train d'écouter dehors en fait. Enfin bref. Et donc voilà, là je suis un peu paumée parce qu'on n'arrive pas à gérer. On a 7 euros pour manger le midi et le soir. Et voilà, depuis 3 semaines, on arrive. On finit tout le temps la semaine à moins 50 et tout. Et on n'arrive pas à... Voilà, j'étais en train de faire les comptes. Et il faut que je récupère pour moi 5 euros. Du coup.
Bah, en gros, le budget, ça dépend. Ça dépend si on travaille, ça dépend si on est à l'école, ça dépend de tout. Vu que moi, j'étais en formation, en alternance, et j'ai arrêté, en fait. Donc, en ce moment, je fais rien. Et eux, vu que je travaillais avant, ils me donnent toujours le même budget que j'avais avant. Donc, ça veut dire 100 euros par toutes les deux semaines. Normalement, si on ne travaille pas et si on n'a pas de budget en dehors de l'ASE, normalement, c'est au moins 250 euros les deux semaines. Moi, j'ai 100 euros pour les deux semaines. Bah, j'arrive pas à m'organiser. je m'organise pas. En gros, ça part. Ça part facilement. Un lundi sur deux, je vais à l'ASE, je prends l'argent, je fais mes courses, j'achète un paquet de clopes et j'ai plus rien. Donc après, je vis avec. Mais bon. Moi, en venant à l'ASE, je pensais qu'on allait m'aider et qu'on allait m'aider à avancer vraiment et travailler sur moi. Mais là, c'est plus... tiens, je te donne l'argent et puis voilà, quoi, fais ta vie. C'est ça, je te donne cet argent, tu discutes pas et puis voilà, c'est ça. Donc c'est pas vraiment de l'aide, c'est plus de l'aide financière et... Hébergement, c'est tout.
Je pense que c'est du bouche-trou, enfin, c'est du cache-misère, quoi. C'est, voilà, c'est à un moment donné des électrons libres, on va dire, qui rentrent pas forcément dans la case foyer, dans la case famille d'accueil, dans la machin. Bon, ben, on va. Qu'est-ce qu'on peut faire pour. Légalement, on doit les protéger. Qu'est-ce qu'on peut faire, mais pour. Les cacher un peu, enfin pour toi un truc un peu voilà, une alternative qui nous protège légalement, qui se dit bon ben notre mission c'est de protéger un mineur voilà, mais en même temps en se disant bon ben de toute façon à 18 ans ce sera plus de notre ressort quoi.
Ils nous protègent dans un sens et dans l'autre ils nous mettent en danger. Ils nous protègent parce qu'ils nous tiennent en hébergement. Mais ils nous mettent en danger parce qu'ils savent pas combien de temps ça tient. Donc on sait pas, en fait. On peut jamais savoir avec la ZEU, c'est ça. C'est bizarre. Moi, j'ai peur. J'ai peur de me retrouver à la rue. C'est ma plus grande peur avec la ZEU. C'est ça. On sait pas si du jour au lendemain, on peut se retrouver à la rue ou pas. Et la vue de la rue... Si tu commences à vivre à la rue, ça y est, c'est fini. On ne peut plus. C'est un cercle vicieux. Et ça s'arrête pas.
Ah oui, ça c'est plus ça. Non, mais eux, ils n'ont pas de terrasse.
Ouais, mais la table.
En fait, et c'est plus
moi, j'ai cette place en bas.
Ouais, c'est plus
en
petit.
En moins, parce que moi, j'ai
de la terrasse.
Non, ici, c'est balcon. Plus petit, non, je trouve.
Ouais. Et d'ailleurs, ce jeune nous le dit. Il dit, moi, je suis comme un clochard.
Une éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse.
Voilà. Il n'est pas chez lui. Il se sent pas En général, les jeunes, une fois qu'ils ont posé leur valise dans un foyer éducatif ou dans une famille d'accueil, ils finissent par se sentir un peu chez eux. Ils savent que c'est provisoire, ils savent très bien que c'est pas pour des années et des années, mais en même temps, ils se sentent un peu chez eux. Lui, il se sent nulle part. Et donc, pour construire un projet, c'est totalement impossible.
C'est
totalement impossible.
C'est parce qu'on ne peut pas se poser nulle part. On ne peut pas construire une vie ici si on sait que 3 mois après, on sera ailleurs. On sait même pas où on va se retrouver du jour au lendemain. Donc, on peut pas construire une vie sur des bases qui sont pas solides. Pour nous, il reste que ça. Si on n'a pas de base où on habite, on n'a plus rien. Parce que déjà qu'on est loin de nos parents, il y en a qui sont pas forcément... Enfin, qu'ils n'ont pas vu leurs parents. Enfin, il y en a qui n'ont pas de famille du tout. Voilà. La seule base qu'on peut avoir, c'est où on habite. Au moins, on est sûr que... Voilà. On est sûr qu'on est là, on habite là, on est en sécurité ici. Mais si ça aussi, on n'est pas sûr, on a plus de maintien.
T'as plein d'affaires là dans
ouais. Et tout tombe.
Ah oui, c'est toute ta vie qui est là.
Voilà, un peu. Je trimballe toute ma vie partout. Tout le temps à trimballer ses affaires, là-bas. Un appartement. Là, au moins, je sais que j'y resterai jusqu'à la fin de mon contrat. Ça serait vraiment l'endroit où je sais que je vais rester pendant un bon bout de temps. Parce que je suis jamais restée plus d'un an. Non, plus de 10 mois. C'est la première fois que je reste aussi longtemps quelque part. Ça fait 10 mois que je suis ici, c'est la première fois que je reste aussi longtemps. Donc ouais, j'aimerais bien pouvoir vivre dans un appartement jusqu'au moment où je prends mon envol. Donc moi, normalement, on ne devrait pas me mettre dans un hôtel. Moi, je devrais être soit un appartement avec des éducateurs ou quelque chose. Mais on m'a vraiment laissé à l'abandon un peu. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Après, je sais pas, peut-être qu'ils ont plus de boulot autre part, peut-être qu'ils ont plus de jeunes à s'occuper autre part. Mais moi, quand je vais voir mon éducatrice, elle me parle tout le temps d'autres jeunes. Elle me parle pas de moi, mes projets à moi. Elle me parle que des autres jeunes. Elle pense à d'autres personnes. Donc moi, je fais ma vie comme ça, quoi. Non, je leur en veux pas, j'ai pas le choix. C'est pas de leur faute que je suis ici. C'est de ma faute, enfin, c'est pas de ma faute non plus. Mais voilà, quoi, c'est les choses qui ont fait ça, c'est le destin. J'ai pas le choix. Mais bon, après, on n'a pas forcément besoin de faire de grandes études pour réussir sa vie.
Bonjour. J'ai rendez-vous avec Isabelle Grimaud à 9h30.
D'accord, je vais l'appeler.
Merci.
Entre 2009 et aujourd'hui, on a eu 700 prises en charge de plus. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. On a plus de 10% de plus d'activité sur la prise en charge des jeunes. Et on a plus de 30% des jeunes qui aujourd'hui sont entrés en étant mineurs isolés. Donc on a vraiment une configuration très spécifique au travers de ça.
Il y a un certain nombre de ces jeunes, pas tous.
Maria Inès.
Mais un certain nombre, un nombre non négligeable quand même, qui étaient pris en charge auparavant par la PJJ.
Éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse et secrétaire du syndicat national des personnels de l'éducation et du social, PJJ-FSU.
La PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, service public d'État, et qui avait aussi la compétence pour intervenir auprès de l'enfance en danger. On nous a enlevé cette compétence au nom du fait que dorénavant les conseils généraux ont la mainmise entre guillemets sur tout ce qui est protection de l'enfance. Voilà. Mais sauf que en transférant totalement cette charge aux conseils généraux, on n'a pas prévu les financements. Et tous les conseils généraux, d'ailleurs, n'ont pas les mêmes politiques, n'ont pas les mêmes moyens. Donc, effectivement, je ne suis pas du tout étonnée qu'il y ait des jeunes qui se retrouvent aujourd'hui à l'hôtel.
Allez, bonne journée, bon courage. fais une hypothèse. Je crois que peut-être pour l'aide sociale à l'enfance, avoir cette politique de mise à l'hôtel, c'est une façon pour elle peut-être de ne pas entériner le fait que tous ces jeunes-là sont de son ressort. C'est comme si l'aide sociale à l'enfance disait « Nous, on s'occupe des enfants en danger, mais on ne veut pas s'occuper des jeunes qui sont un petit peu à la frontière, des jeunes qui, même s'ils ne sont pas étiquetés délinquants, posent d'énormes difficultés. »
Je vais vous demander de patienter deux petites minutes. Je
suis juste là.
Voilà. Non, mais attendez. Alors, les fauteuils sont là. À côté de l'ascenseur. Je vais venir vous chercher.
Il n'y a pas de marché public pour le moment, mais c'est, ça fait partie des choses sur lesquelles on est en train de nous travaillons pour qu'effectivement on puisse avoir un cadre juridique. De marché public comme c'est prévu normalement.
Ça existe, tout le monde le sait, mais on ne l'officialise pas. Donc clairement, ça crée des situations assez ambiguës parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que prestataire, soit j'ai une éthique, soit je ne l'ai pas. Et après, je fais ce que je veux, entre guillemets, parce que je n'ai aucun contrat avec les sociales d'enfance, je n'ai aucun... Rien ne m'oblige aujourd'hui à envoyer des éducateurs diplômés. Rien. C'est mes valeurs ou les valeurs de la société qui font que je le fasse. Si demain je veux juste gagner de l'argent, ben j'envoie des gens moins qualifiés, qui me coûtent moins cher à moi et que je facturerai toujours mes prix à l'ASE. Et il y en a qui ne gênent pas. Voilà, parce qu'en théorie, il peut y avoir un marché public avec un cahier des charges strict, comme on a pour l'accompagnement. Voilà. Hein.
Je sais quand même qu'un jeune tout seul dans une chambre d'hôtel, j'ai cru comprendre que ça coûtait 36 000 euros par mois. Un jeune dans un foyer collectif à 10-12 places, c'est à peu près la moyenne de nombre de jeunes dans les foyers, coûte bien moins cher. Mais un jeune dans un petit appartement à partager avec 2-3 coûterait bien moins cher aussi. Donc au final, c'est la solution la plus chère.
Un immeuble où il y aurait un petit appartement et en dessous, il y aurait plus un service éducatif quand on n'est pas bien, quand on a besoin de parler ou quand on est dans des projets, quand on veut se faire aider en fait. Et tout ça, il n'y a pas ici quoi. Et ça serait bien qu'il y aurait des petits trucs, des petits groupes comme ça, des petits immeubles faits spécialisés pour les jeunes de la 2.
Donc lundi 7 mai, elle avait cours cet après-midi, mais elle ne s'est pas levée malgré...
L'aide sociale à l'enfance essaie maintenant de rattraper le temps perdu, c'est-à-dire que ce qui existait il y a 10-15 ans, qui aurait dû être développé et qui est tombé plus ou moins en désuétude, et ben aujourd'hui ils essaient de reconstruire ça, sauf qu'ils y mettent dans ces appartements-là des enfants qui ont passé X mois en hôtel, qui ont pris des mauvaises habitudes de vie, qui n'ont aucune hygiène de vie, qui confondent le jour et la nuit, qui consomment des produits divers et variés, qui ont été complètement sortis de toute socialisation, et ils les mettent en appartement, et ces enfants entre eux clashent, et ça explose, et ça ne marche pas. Donc l'expérience continue, parce que j'en ai encore discuté la semaine dernière avec des référents de l'ASE, sauf qu'ils ont été obligés d'enlever les enfants qui étaient dedans, les adolescents qui étaient dedans, et ils vont essayer de faire avec d'autres. Mais ce qui est dramatique, c'est que tous ces jeunes qui ont passé X mois, voire années en hôtel, on va avoir du mal à les récupérer, parce que ça va être une réadaptation, mais absolument phénoménale, parce qu'ils se sont totalement désocialisés.
C'est tout.
Salut.
Salut.
Bonjour.
Bonjour.
T'es en train de te faire coiffer ?
Ah non, c'est mes cheveux. Ici, c'est ma chambre. Il y a un grand lit, un grand placard où je peux mettre mes habits. Je mets mes manteaux sur mes cintres. J'ai des palmes aussi pour la piscine. En plus, j'ai bien nagé. J'ai rangé mon sac d'école, des sacs où j'ai mes doudous, tout ça. Je lis des mangas, des Tom Tom et Nana, des magazines et des donuts. Une vue. Là en face, c'est la bibliothèque avec un parc et des arbres. Des enfants qui jouent en face là-bas. Parfois, je vais voir. Vous savez, c'est le pont où il y a la Seine. Puis voilà. J'ai 11 ans et puis je sais pas combien de temps je suis à l'hôtel.
Un an ?
Ouais, un an ou plus.
Et du coup, ça donne quoi ? Tu vas rester ici longtemps, tu sais, ou ils t'ont dit quoi, la ZE ?
Je sais pas, pour l'instant, j'attends que... Enfin, j'attends.
Vous venez d'écouter, à 17 ans, en errance à l'hôtel, aux marges du système de placement des mineurs en danger. Un documentaire de Charlotte Rouault et Benoît Bory.
T'es un con, t'es con.
Tu m'entends? Ça fait trop bizarre.